Alors, le triplement du prix du pétrole, la nationalisation des entreprises pétrolières et beaucoup d'autres entreprises minières auxquelles on assiste depuis 2 ou 3 ans, tout cela devient plus facilement explicable. Je viens de parler de nationalisation, il faut que je m'y arrête un petit instant. Il est très curieux de constater que la nationalisation des puits de pétrole, la nationalisation des phosphates au Togo, la nationalisation du fer, la fameuse Miferma en Mauritanie, la nationalisation du cuivre qui s'est faite en plusieurs étapes, qui est maintenant chose achevée au Zaïre, ex-Congo belge, toutes ces nationalisations ont été parfaitement bien accueillies par les grands monopoles impérialistes et par les États impérialistes. Parce que ces nationalisations étaient devenues inévitables à un moment donné. C'est les oligarchies des pays du tiers-monde voulant retirer des miettes un peu plus avantageuses que celles qu'elles avaient retirées jusqu'à présent du gâteau de l'exploitation impérialiste dans leur pays, ont pensé que la nationalisation, ils avaient raison, était un des moyens d'améliorer les règles du partage entre les associés pauvres, si vous voulez, les plus pauvres, les moins importants de la bourgeoisie mondiale, et les associés prioritaires et prédominants que sont les bourgeoisies des métropoles impérialistes. Et les autres ont compris qu'il fallait lâcher un certain lest. Ils l'ont fait sans rouspétance, sans difficulté, parce qu'ils savaient que les nationalisateurs étaient leurs associés dans le cadre de la bourgeoisie mondiale et leurs complices. Mais lorsque, il y a un peu plus de 2 ans, dans un pays d'Amérique latine, au Chili, lorsque un gouvernement d'unité populaire, celui du docteur Allende, a prétendu nationaliser les mines de cuivre et les nationaliser réellement, c'est-à-dire les socialiser, c'est-à-dire nationaliser dans le cadre d'un État qui avait fait l'option socialiste, qui voulait construire au Chili un État construisant peu à peu une véritable économie et une véritable société socialiste, alors là et là seulement, on a vu se liguer les forces des grands monopoles internationaux intervenant directement. ITT lui-même est intervenu directement. Le gouvernement des États-Unis est intervenu directement par sa CIA. L'armée de classe de la bourgeoisie nationale chilienne est intervenue directement et il est advenu ce que vous savez tous. Je pense que cette comparaison entre 36 nationalisations de puits de pétrole ou d'autres entreprises minières qui n'ont donné lieu à aucun conflit et puis la tentative de véritable nationalisation par le docteur Allende, cette différence dans les faits vous montre qu'il y a une différence dans les problèmes de classe qui sont sous-jacents à ces faits. Je pense que ceci nous aide à comprendre ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Est-ce que la grande conférence Nord-Sud, qui doit durer toute l'année, se terminer à la fin de cette année ou au début de la prochaine, je ne sais plus très bien, est-ce qu'elle va vraiment aboutir à établir un nouvel ordre économique mondial? Alors là, on peut répondre, sans jouer au prophète, on peut répondre d'une façon extrêmement catégorique, absolument pas. Un nouvel ordre économique mondial, qu'est-ce qu'il serait? Un nouvel ordre économique mondial ne peut pas être un ordre capitaliste. Il est inconcevable qu'une bourgeoisie mondiale réunissent une conférence mondiale qu'on appelle Nord-Sud pour se suicider à l'échelle mondiale, c'est grotesque. Ce à quoi on va assister, c'est tout simplement à une bataille tendue, ils vont défendre chacun leurs intérêts âprement, et je peux vous dire tout de suite qu'on va aboutir dans un an à peu près à un compromis. Ce compromis donnera des satisfactions nouvelles aux oligarchies dirigeantes des pays du tiers-monde. Il faudra que les bourgeoisies impérialistes centrales consentent certains sacrifices. Mais ce ne sera simplement qu'un modeste changement quantitatif dans le partage de l'exploitation, des fruits de l'exploitation à l'échelle mondiale. L'essence de l'exploitation et le taux de cette exploitation, sauf dans le cas où les luttes de classe se développeraient ou bien dans les pays industrialisés, ou bien dans les pays du tiers-monde, ou dans les deux à la fois, l'essence et le taux de cette exploitation ne changeront absolument pas. Un nouvel ordre économique aussi bien à l'échelle mondiale qu'à l'échelle de quelque pays que ce soit, ne peut naître que par le mouvement, que par la mobilisation totale dans le cadre d'une lutte des classes, des forces actives des travailleurs d'un pays s'il s'agit d'un pays ou de l'ensemble des pays du tiers-monde s'il s'agit du tiers-monde. Ce n'est pas à cela que conduira la conférence Nord-Sud. La conférence Nord-Sud se déroule en dehors de la lutte des classes, ce qui ne signifie pas que ces rivalités entre les divers composants de la bourgeoisie mondiale ne doivent laisser les travailleurs indifférents. Lorsqu'il y a rivalité entre deux composants d'une grande bourgeoisie à l'échelle mondiale, il est évident que toute rivalité comporte un certain affaiblissement. Et surtout, si cette rivalité se dénoue de façon que ce soit le plus fort qui doive lâcher quelque chose et le plus faible qui doive gratter quelque chose, c'est là encore une raison supérieure, une raison supplémentaire pour conclure à un affaiblissement de la bourgeoisie mondiale. Par conséquent, si cette conférence Nord-Sud, si cet affrontement entre les deux grandes composantes de la bourgeoisie mondiale n'ont aucun caractère de classe, elles concernent quand même les classes ouvrières de tous les pays, car elles peuvent être appréciées comme une, n'exagérons rien, comme un relatif affaiblissement de la bourgeoisie mondiale du fait d'une rivalité interne.
J'avais une question, parce qu'en fait, on a parlé des pays du tiers-monde qui possédaient des matières premières. Mais il existe quand même, au sein des pays sous-développés ou non encore développés, peu importe le terme, bien qu'il ait une certaine importance, des pays qui, eux, n'ont ni les matières premières, ni la possibilité de se développer. Alors, à mon avis, ça crée une contradiction supplémentaire. Et cette contradiction, à ton avis, comment pourra-t-elle se résoudre ou de quelle façon la vois-tu ?
Il est certain que tous les pays du tiers-monde, malheureusement, ne sont pas tous possesseurs de matières premières et qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui n'en détiennent aucune essentielle. Ce sont des pays que récemment on a parfois appelé pays qui constitueraient une sorte de quart-monde. Je me suis violemment opposé, je ne sais plus dans quel article, etc., ou quelle revue, contre cette expression « quart-monde » qui est profondément mystificatrice parce qu'elle elle tend, là encore, à masquer sous des différences quantitatives une identité qualitative complète entre l'ensemble des pays que nous appellerons pour l'instant encore du tiers-monde. Qu'il y ait des pays plus ou moins pauvres dans le tiers-monde, ça ne fait absolument aucun doute. Qu'il y en ait qui aient de grandes richesses naturelles et d'autres qui n'en aient pas, ça ne fait absolument aucun doute. Alors il est certain que un grand nombre de pays d'Afrique en particulier, y compris de l'Afrique occidentale, n'ont pas de matières minérales importantes pour nos industries et ont tout juste des matières premières agricoles comme des oléagineux ou du coton. Ça ne va pas très loin et que ces pays-là sont pauvres et supportent, c'est vrai ce qu'on a dit à ce sujet-là, supportent par contre, dans la mesure où ils sont eux aussi non producteurs de pétrole et par conséquent importateurs de pétrole, supportent les hauts prix du pétrole qui résultent de la multiplication par 3 des prix de 1973, comme j'ai dit tout à l'heure. Et c'est là qu'on a vu justement que les pays pétroliers n'ont pas montré, il faut le dire, une générosité débordante vis-à-vis de ces pays du tiers-monde encore plus pauvres qu'eux. Puisque jusqu'aux toutes dernières nouvelles, ils avaient résolu seulement d'ouvrir un fonds d'un montant indicatif de l'ordre de $800 millions pour venir en aide à ces pays du tiers-monde qui n'ont aucune matière première et qui sont néanmoins importateurs de pétrole. Alors il est certain que là, il y a un cas pour un grand nombre de pays du tiers-monde qui n'ont aucune matière première déterminante et qui souffrent de l'élévation des prix du pétrole. Et ce cas-là ne sera pas résolu dans le cadre du système, même si ce fonds, purement théorique jusqu'à présent, et avec des règles d'emploi extrêmement complexes, si bien qu'on se demande si vraiment l'exécution sera même à la hauteur de ces 800 millions de dollars, eh bien, on peut dire qu'il n'en résultera aucun changement fondamental dans ce qu'on appelle aujourd'hui le tiers-monde. Il y a certes simplement certains pays du tiers-monde qui seront encore plus désavantagés que d'autres, un point c'est tout.
Comment analyses-tu la position de l'URSS par rapport à par rapport aux pays du tiers-monde et sa situation?
Alors ça, c'est une question qui m'est posée, je dois dire, aussi souvent que je fais des conférences. On me dit souvent, que pensez-vous de l'impérialisme soviétique? Alors j'ai dit d'abord qu'il n'y a pas d'impérialisme soviétique, parce que l'impérialisme, ça a une certaine signification, celle que lui a donnée Lénine et que tout le monde accepte aujourd'hui. L'impérialisme, c'est le mode de production, le système capitaliste, parvenu à un point de développement tel que les frontières nationales ne suffisent plus. Les capacités productives sont telles qu'on produit plus qu'il faut pour satisfaire les besoins solvables de la population du pays. La nécessité d'exporter dans d'autres pays existe, et en même temps, je l'ai dit tout à l'heure, la nécessité d'importer de ces pays des matières premières ou des produits de consommation existe. En somme, l'impérialisme, c'est le système capitaliste arrivant à un point de développement où il se lance dans la mondialisation. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui on parle des sociétés multinationales, on en parle aujourd'hui, mais elles existent depuis fort longtemps. Alors, sous cet aspect-là, comment opère l'Union soviétique? D'abord, il y a un fait à reconnaître, c'est heureux ou malheureux selon les conceptions qu'on a, mais l'Union soviétique est de très loin dans le monde, c'est même, je crois, le seul pays du monde à ma connaissance qui ait sur son territoire tout ce dont elle a besoin pour son industrie. Aucune matière première de base, énergétique ou industrielle, à ma connaissance, ne lui manque. Alors qu'il en manque, et de très sérieuse, aux États-Unis d'Amérique, il n'en manque pas à l'Union soviétique. Par conséquent, l'Union soviétique n'est pas dans la nécessité, d'après les besoins même de son industrialisation, comme se trouvent les pays capitalistes classiques. Ce mot classique, j'en dis déjà trop. L'Union soviétique n'est pas dans la nécessité d'aller chercher dans le tiers-monde des matières premières qu'elle ne détiendrait pas. D'autre part, l'Union soviétique vit sous un régime qui est un régime qu'on pourrait qualifier, si vous voulez, de capitalisme d'État. C'est un régime, le capital existe, il y a un capital considérable avec le développement industriel considérable de l'Union soviétique. Ce capital, à mon avis, je vous dis très franchement mon avis tout de suite, n'est pas un capital mis en œuvre par une société de type socialiste. À mon avis, le socialisme n'existe pas en Union soviétique. Le pouvoir politique, économique, administratif, militaire, tout ce qui se déduit du pouvoir politique, est détenue par une couche dirigeante centrée essentiellement sur le Parti communiste de l'Union soviétique et aussi sur une puissante bureaucratie qui s'auto-reproduit en quelque sorte et qui bénéficie de la libre disposition du capital, de la libre disposition de l'épargne nationale pour conduire le développement dans les voies qu'elle veut, ainsi que d'une partie très importante de privilèges personnels, car l'échelle des rémunérations en URSS est considérable, aussi considérable que chez nous, de privilèges personnels pour que cette classe se conduise, dans tout, y compris en tant que consommateur, comme une classe dirigeante. Or, cette classe, du fait qu'il n'y a pas d'entreprise privée, de capital privé en Union soviétique, il n'y a pas non plus, jusqu'à présent tout au moins, d'exportation de capital, qui est l'un des termes fondamentaux, constitutifs de concepts d'impérialisme. Non seulement importation de matières premières, exportation de produits fabriqués, mais je l'ai dit en commençant, exportation de capital. Lénine mettait même très vigoureusement l'accent sur ce problème-là de son temps, car de son temps, il était encore plus prédominant qu'aujourd'hui. L'Union soviétique, par conséquent, ne peut pas être, même d'après la structure de ce capitalisme bureaucratique d'État, ne peut pas être un exportateur de capitaux. Et cependant, l'Union soviétique profite des termes capitalistes d'échange dans ses échanges commerciaux avec les pays du tiers-monde. D'abord, je dois vous dire, quantitativement, il faut toujours se référer malgré tout à des données quantitatives. Quantitativement, l'Union soviétique ne commerce qu'infiniment peu avec les pays du tiers-monde. Alors que les pays du tiers-monde exportent, font les trois quarts de leur commerce extérieur total avec les pays capitalistes industrialisés, 20% environ entre eux, entre pays du tiers-monde, ils ne font que ce qui reste, c'est-à-dire 5%, même moins de 5%, avec l'ensemble des pays socialistes, c'est-à-dire le bloc soviétique, Cuba, et puis les pays socialistes d'Asie, Corée du Nord, Mongolie, on n'en parle pas, Chine, Chine populaire et Vietnam. Par conséquent, d'abord, un commerce insignifiant. Mais dans ce commerce, il est certain que l'Union soviétique profite de ce qu'on appelle l'échange inégal, c'est-à-dire qu'elle vend à ces pays-là des produits industriels qui comportent, qui incluent une force, le prix d'une force de travail hautement rémunérée, et ils achètent aux pays du tiers-monde des produits qui comportent une force de travail rémunérée à un taux infiniment bas par rapport au niveau de vie des pays développés, parmi lesquels il faut classer maintenant l'Union soviétique. Par conséquent, l'Union soviétique profite de l'échange inégal. Elle ne fait pas de meilleurs prix, elle ne consent pas de meilleurs prix dans ses exportations que les Occidentaux, et elle n'achète pas aux pays du tiers-monde à des prix plus rémunérateurs qu'on achète les pays occidentaux. J'ai moi-même fonctionné pendant très longtemps dans un pays du tiers-monde qui faisait un commerce, il s'agit du Maroc, qui faisait un commerce non négligeable avec les pays du bloc soviétique et notamment avec l'Union soviétique, et là les termes, les bases des échanges étaient exactement les mêmes que ceux qui avaient cours dans les échanges avec les pays capitalistes de l'Europe de l'Ouest, par exemple. Par conséquent, il résulte de tout ça que parler d'un impérialisme soviétique, je crois que, en terminologie marxiste, si vous voulez, car tout de même il faut donner un sens aux mots, c'est pas exact. Par contre, parler d'une hégémonie ou d'un hégémonisme soviétique, non seulement en Europe, etc., mais dans le monde entier, pas dans le tiers-monde, ça je crois qu'on peut en parler très nettement. Il est certain que lorsque l'Union soviétique, par exemple, a apporté une certaine aide à la Somalie, en compensation de cette aide, elle a eu une base militaire et navale à Berbera, qui est pour elle d'une importance considérable. Il est certain que si elle entretient des rapports politiques et économiques relativement privilégiés avec l'Inde, c'est en vue d'établir une certaine hégémonie, là aussi, avec des arrière-pensées stratégiques pour l'océan Indien, du côté en Inde et aux abords de l'Inde. Alors, hégémonisme soviétique, oui, incontestablement. Impérialisme soviétique, non, le mot a une autre signification. Voici en gros ma réponse.
Tu as dit, il y a deux choses. Il y a d'un côté une bourgeoisie à l'échelle mondiale et de l'autre côté un prolétariat à l'échelle mondiale. C'est un peu comme ça que tu as schématisé le problème. Bon. Est-ce que, à ton avis, il n'existe pas des contradictions secondaires relativement importantes entre le prolétariat des pays développés et le prolétariat des pays sous-développés, compte tenu de la structure dans laquelle se trouvent ces différents pays? Parce qu'il faut bien s'imaginer que le socialisme, on ne l'aura pas en un jour, enfin, tout au moins ce serait souhaitable, mais je ne crois pas qu'on y arrivera. Donc il y aura nécessairement un certain nombre de contradictions, et ces contradictions, elles peuvent avoir différents aboutissements, enfin, elles peuvent donner différents types de développement. C'est là où je crois qu'il faudrait peut-être...
Il y a évidemment quelques contradictions secondaires, comme tu as eu raison de le dire, entre, en gros, le prolétariat des pays développés et le prolétariat des pays du tiers-monde. Prenons des exemples concrets, chaque fois que c'est possible, c'est toujours très utile. Vous êtes tous, comme je l'ai dit tout à l'heure, consommateurs de café, de thé, de bananes, d'oléagineux qui viennent des pays du tiers-monde et de beaucoup d'autres choses qui viennent du tiers-monde. Objectivement, dans la mesure où vous êtes consommateurs de ces produits, vous participez à l'exploitation de ceux qui produisent ces articles de consommation là-bas, puisque l'échange par nature, c'est une loi marxiste, est inégal entre pays de haut niveau économique et pays de plus bas niveau économique. Il est certain que dans notre tasse de café quotidienne ou bicotidienne, il y a une part d'exploitation du travailleur français, du travailleur africain par le travailleur français. Ça, c'est absolument incontestable. C'est la même chose pour les bananes, les tissus de coton, etc., etc. C'est une base objective. Mais ça, le travailleur français n'y est pour rien là-dedans. C'est pas lui, c'est pas la classe ouvrière qui a créé un mode de rapport entre les pays industrialisés et les pays sous-développés, et ce n'est pas lui non plus qui a créé le mode de production capitaliste. Par conséquent, je pense qu'au-delà de la contradiction que je viens de dénoncer, et d'autres contradictions de caractère secondaire qui peuvent exister, par exemple, en France dans certains cas, ils sont rares à mon avis, entre travailleurs immigrés et travailleurs métropolitains, travailleurs autochtones en France, au-delà de ces contradictions tout à fait secondaires, il existe objectivement une convergence, plus qu'une convergence, une identité des intérêts des uns et des autres, puisque je l'ai dit tout à l'heure de façon ramassée, mais je crois que c'est vrai, c'est peut-être pas à peine s'étendre là-dessus, je crois que vous en avez conscience, il existe une identité fondamentale dans un très grand nombre de cas, identité juridique même, dans l'exploiteur. Je vous ai cité le cas de Péchinet tout à l'heure, parce que c'est un cas très typique, mais toutes les grandes entreprises en France participent directement à l'exploitation des travailleurs du tiers-monde. La sidérurgie de Fos-sur-Mer exploite le minerai africain, celle de Dunkerque également, etc. Par conséquent, l'exploitation des travailleurs qui extraient ce minerai en Afrique et l'exploitation des travailleurs actuellement en grève ou qui ont fait une grève récemment à Fos-sur-Mer ou à Dunkerque, eh bien, elle est exactement de même type et elle est même faite par la même entité juridique dans le cas que je viens de citer, puisque Usinor et Sassilor en France, les deux grandes sidérurgies, sont actionnaires des mines de fer, étaient actionnaires jusqu'à la nationalisation toute récente des mines de fer de Mauritanie, et même après nationalisation, ils ont continué à avoir des intérêts dans l'affaire. Par conséquent, il y a vraiment une identité fondamentale et même une unicité fondamentale des intérêts des uns et des autres parce que l'exploitation est de même type et elle est faite, quand ce n'est pas exactement par les mêmes, comme dans le cas que je viens de dire, elle est faite en tout cas par le même système capitaliste impérialiste mondial et par cette bourgeoisie mondiale intégrée à deux grandes composantes que je viens de définir devant vous, l'adversaire est le même. Qu'on s'adresse à la composante principale directement ou qu'on ait affaire directement à la composante secondaire, il n'y a que des incidences tout à fait subalternes. Le fait fondamental, c'est que ces deux composantes sont unies dans une même bourgeoisie mondiale, dans un même système, dans un même mode de production, qu'est le mode de production capitaliste. Par conséquent, je pense que s'il y a des divergences secondaires, des contradictions secondaires, il y en a toujours des contradictions secondaires. Il y en a entre paysans et ouvriers en France, des contradictions secondaires. Elles sont effacées très aisément par la convergence des intérêts des uns et des autres. Les contradictions secondaires ne doivent jamais nous faire perdre de vue qu'il existe vraiment un prolétariat mondial unifié objectivement par les raisons que je viens de dire, mais qui malheureusement est encore fort loin d'être unifié subjectivement, c'est-à-dire que cette solidarité objective des intérêts n'est pas ressentie ou très insuffisamment ressentie par les travailleurs des pays du tiers-monde et par les travailleurs des pays capitalistes industrialisés, encore que pour prendre l'exemple de la France, autant que je puisse en juger moi-même, je peux me tromper, il me semble que depuis 4 ou 5 ans, il y a des progrès considérables qui ont été faits dans la conscience des travailleurs français au regard des travailleurs immigrés ou même des travailleurs du tiers-monde.
Je voudrais savoir si on pourrait chiffrer quelque peu ce que deviendrait le travailleur français en cas d'échange égal avec les pays du tiers-monde. Parce que subjectivement, je crois que pour les travailleurs français aujourd'hui, dans leur conscience générale, ils pensent que Dans un cas d'échange égal avec les pays du tiers-monde, leur niveau de vie baisserait. Est-ce que, objectivement, il y a une réponse aujourd'hui qu'on peut faire à ça?
Alors là, c'est un problème très difficile que vous posez là. Parce que, autant il est difficile, il est facile, d'après l'analyse marxiste, la loi de la valeur de Marx, de comprendre la loi de l'échange inégal. Autant il est difficile de mesurer concrètement en quoi il consiste. On peut mesurer très facilement les variations de cet échange inégal, ce qu'on appelle les termes de l'échange. Chaque pays mesure, dans ses statistiques de fin d'année, la valeur moyenne d'une tonne importée et d'une tonne exportée. Et quand on fait le rapport de l'une à l'autre, c'est ce qu'on appelle les termes de l'échange. Alors pour les pays du tiers-monde, je peux vous dire par exemple que dans les 15 années qui ont précédé 1970, c'est-à-dire de 1955 à 1970, ces termes de l'échange pour l'ensemble des pays du tiers-monde ont baissé de 15%. Ça veut dire que si un pays du tiers-monde typique, schématique, si vous voulez là encore, en 1955, pour importer avec 100 unités monétaires qu'il se procurait grâce à ses exportations, pouvait importer également 100 unités monétaires d'importation. En 1970, avec 100 unités monétaires d'exportation, il ne peut plus importer que pour 85 unités monétaires d'importation, parce que les prix d'importation se sont accrus plus vite que les prix d'exportation qui ont cru plus modérément ou qui, dans le cas que je dis, sont restés à peu près stables. Alors, la détérioration des termes de l'échange se mesure statistiquement. Mais le taux de l'échange inégal, c'est-à-dire le rapport, si vous voulez, entre la valeur économique de la force de travail moyenne en Afrique, par exemple, et en Europe, alors là, il y a des discussions effroyables entre économistes. Et je crois que ces discussions existent parce qu'on n'a pas d'éléments sérieux pour le mesurer. J'ai eu à ce sujet-là des discussions saignantes avec un garçon que je n'aime pas beaucoup sur le plan de son analyse de l'échange inégal. Il s'agit de Arguiri Emmanuel, qui a fait une thèse de doctorat d'État il y a 4 ou 5 ans maintenant, qui est intitulé précisément « L'échange inégal ». Et qui le conduit à des conclusions absolument aberrantes sur le plan politique. Je me suis un jour vigoureusement heurté à lui dans un débat à la cité universitaire d'Antony, parce que lui, alors, il arrivait à cette conclusion que l'échange inégal, mesuré en millions de dollars pour une année donnée, équivalait à peu près à 350 à 400 millions de dollars, mettons pour l'année 1968, ça devait se situer à ce moment-là. C'est aberrant, c'est idiot, c'est stupide. Je crois qu'il faut voir les choses d'une façon extrêmement concrète. C'est que la force de travail du travailleur africain, par exemple, est rémunérée incomparablement moins cher que la force de travail de son homologue français. Mais son rendement est également infiniment plus faible, parce qu'il n'a pas de CAP. La plupart du temps, il est illettré, et même dans un travail manuel, c'est quelquefois un handicap considérable d'être illettré. Il n'a pas l'habitude du travail industriel. Et moi, personnellement, la meilleure mesure que j'ai trouvée de l'affaire un jour, je suis tombé sur une étude faite par, je ne me souviens plus comment ça s'appelle exactement, si vous voulez, c'est l'Organisation professionnelle française de l'industrie textile, qui, pour ses adhérents, avait fait une étude comparée, extrêmement sérieuse, de la valeur comparée du rendement du travailleur africain, le rapport coût-rendement du travail en Afrique et le rapport coût-rendement du travail en France. Et on arrivait à ce moment-là, et je crois qu'eux, on peut leur faire confiance, parce que quand il s'agit de leur porte-monnaie, ils font des travaux extrêmement précis. Et j'ai lu les détails de ce travail, il était fort bien fait, je dois le dire. Alors on arrivait à des taux qui étaient incomparablement moins lourds que celui que mettent en avant Arguiri Emmanuel, et même Samir Amin, qui à mon avis va beaucoup trop fort dans ce domaine-là également. Alors, pour vous dire, si vous voulez, un ordre de grandeur, je pense que le taux de cet échange inégal est à peu près de un quart, si vous voulez, de la valeur de la marchandise, un quart, un tiers de la valeur de la marchandise exportée par le tiers-monde, pas davantage. Je crois qu'il faut se garder très sérieusement d'affirmations gratuites, extrapolées sans aucune base et allant jusqu'à des limites qui sont qui manquent totalement de sérieux, comme le font certains économistes pourtant réputés sérieux. Je crois, moi je cherche toujours à me fonder sur des chiffres, des données concrètes. Malheureusement, il n'en existe pas sur le plan statistique de ces données concrètes, et c'est pourquoi je pense qu'il faut accorder certains intérêts à une monographie qui a été faite par une organisation professionnelle française et qui, elle, n'a pas cherché des éléments statiques, mais des éléments faits dans des entreprises textiles en Afrique et des entreprises textiles en France. Elle arrivait au résultat qu'il était beaucoup plus profitable d'aller en Afrique, mais pas du tout dans les proportions que disent Samir Hanoui, Léa Guéry et Emmanuel. Dieu sait que c'est suffisant déjà d'avoir une exploitation qui se mesure par le tiers de la valeur du produit exporté, c'est déjà énorme.
Je voulais simplement te demander si tu pourrais nous exposer grossièrement les thèses de Samir Amin, que personnellement je connais assez mal.
Ce ne sont pas des thèses, sur ce plan-là tu dis, hein. Ce ne sont pas des thèses, ce sont des évaluations. Alors, Samir Amin compare le taux moyen de rémunération de tel travailleur au Sénégal, par exemple, où il réside. Bon, premièrement, dans ce domaine-là, il faut prendre des taux comparables. Par conséquent, il faut prendre le taux d'un travailleur industriel. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même au Sénégal, d'un travailleur industriel en France. Alors, à ce moment-là, le travailleur industriel dans les pays africains est quand je dirais considérablement moins rémunéré que celui de France, mais il est considérablement plus rémunéré que ne l'est le paysan qui gratouille le terre avec sa houe là-bas pour planter quelques arachides ou quelques pieds de coton. Il n'y a aucune commune mesure. Moi qui ai connu de très près, par exemple, la réalité d'un pays du tiers-monde, le Maroc, je peux dire que par rapport à la masse du peuple marocain, c'est-à-dire des petits habitants qui gratouillent une vie pauvre en vendant dans des échoppes le tout petit commerce des villes et l'immense masse des fellahs marocains, eh bien les travailleurs des usines, par exemple la Somaka, usine de construction de montage d'automobiles à Casablanca, les travailleurs de cette usine faisaient figure de bourgeois, de riches, de favorisés, de seigneurs à côté des revenus du fellah marocain. Il faut tenir compte de ça. Et puis alors, il faut tenir compte du problème de la rentabilité. Alors, Samir Amin, il n'a pas fait de thèse là-dessus, il n'y a pas de thèse, ni Arguiri Emmanuel non plus. Chacun essaye de trouver des éléments d'appréciation. Je veux dire que Samir Amin est incomparablement plus près de la réalité que Emmanuel. Emmanuel, lui, il est fou. Je me souviens une fois, lorsque la revue Partisan de chez Maspero existait encore, j'avais fait un essai de calcul pour l'année 1968 ou 1969, en valeur absolue, de la masse que représentait l'échange inégal pour l'ensemble des matières premières exportées par le tiers-monde. J'avais fait ça à contrario en disant si les mêmes matières premières, les mêmes produits étaient produits dans nos pays, et avec des gymnastiques, je veux dire, un petit peu compliquées, j'arrivais tout de même à serrer la réalité d'assez près. Et alors qu'Arigui arrivait à un chiffre d'échange inégal pour une année voisine, je comprise entre 350 et 400 millions de dollars, moi j'arrivais à 25 millions de dollars seulement, pour vous dire à quel point nous en sommes. Je pense, moi je suis complètement hostile aux exagérations pour défendre une cause. Si une cause ne peut se défendre que par une exagération, c'est que c'est une mauvaise cause. Une cause doit pouvoir se défendre par elle-même lorsqu'elle est juste. Et l'échange inégal est suffisamment juste, suffisamment vrai, sans qu'on l'exagère, pour établir toutes sortes de thèses réelles, fondées, celles-là. Je pense qu'il faut se garder de toute exagération. L'exagération est toujours préjudiciable à la cause qu'elle prétend défendre. Et je crois que le chiffre que j'ai avancé pour l'année en question, de 25 millions de dollars, je ne dis pas qu'il était la réalité, il ne l'était certainement pas. Je pense qu'il était pas plus de 20% en moins ou de 20% en plus de la réalité. C'est encore une fourchette énorme, mais je ne peux pas dire mieux. Mais ça, de cette fourchette-là, je suis sûr.
En ce qui concerne l'échange inégal dont tu as parlé concernant le travail ouvrier dans les pays du tiers-monde et les pays industriels impérialistes, je pense que tu as parfaitement raison, et que si on prend le textile ou n'importe quelle autre industrie, la valeur de la force de travail est sans doute du tiers ou du quart en moins que celle des pays impérialistes.
Le rapport, la force de travail est beaucoup moins, la valeur
oui.
de force de travail. Le rapport,
du coup,
valeur de la force de travail, productivité, car la productivité est incomparablement
oui.
moindre.
Bon. Mais il y a un autre problème, c'est que l'essentiel de ce que l'impérialiste tire des pays du tiers-monde, ce n'est pas une production industrielle de transformation, mais des matières premières, soit agricoles, comme le café, la banane dont tu as parlé, soit des matières premières minières, telles que l'étain en Bolivie, le cuivre au Chili, etc. Or, il me semble que là, il y a une très grande différence de coût, une grande différence de valeur de ce qui est retiré des mines ou des matières premières dans ces pays par rapport aux mêmes produits retirés dans les pays impérialistes. C'est-à-dire qu'il y a un échange inégal beaucoup plus grand. Et alors, c'est pour ça que je pense que le pillage du tiers-monde, enfin l'importance de l'échange inégal est quand même très importante, car c'est surtout sur les matières premières, agricoles et minières que ça porte, et non pas sur des produits industriels.
Oui, tu as raison, mais l'extraction des matières premières se fait sous forme industrielle dans le tiers-monde, c'est pas du travail artisanal. Je parlais tout à l'heure des phosphates marocains. Les phosphates marocains utilisent le dernier cri de la technique la plus moderne. L'extraction du cuivre au Zaïre ou en Zambie, non seulement ils extraient le cuivre, mais ils le fondent en très grande partie sur place maintenant. Les temps où l'on exportait du minerai de cuivre sont révolus depuis déjà pas mal de temps, et certains pays comme par exemple la Zambie font non seulement la fonderie du cuivre en mattes de cuivre, ce qu'on appelle, mais ils font du cuivre raffiné, ce qu'on appelle des wire bars et des trucs comme ça, ils font du cuivre raffiné eux-mêmes. Alors, ils ont déjà une transformation industrielle. Lorsque je parle de la bauxite, le trust Pechiney, notre trust Pechiney, il exploite de la bauxite en Guinée, il la transforme sur place en alumine, c'est déjà un produit transformé industriellement qu'il importe en France, et quelquefois même il fait la transformation ailleurs. Une partie notable de l'alumine qu'il fabrique en Guinée, à partir de la bauxite, est transportée au Cameroun, à quelque chose comme 2 ou 3 000 kilomètres de là, à Edea, je crois exactement, pour être transformée en métal aluminium. Pourquoi le Cameroun? Parce qu'au Cameroun, à l'époque, c'était là que le courant électrique, l'énergie électrique, était le meilleur marché au monde. Or, la transformation de l'alumine en aluminium métal exige, paraît-il, des quantités fantastiques d'énergie. Cette énergie, il l'avait trouvée au Cameroun, donc il a installé une usine qui produit de l'aluminium métal au Cameroun, ce qui a permis à M. Moussa, inspecteur des finances, devenu depuis directeur général de la Banque de Paris et des Pays-Bas, par conséquent un gars qui s'y connaît, de dire textuellement, dans un livre qui s'appelait, je crois, « Les nations prolétaires », de dire que Alucam, l'entreprise qui fait de l'aluminium au Cameroun, n'était pas un problème du Cameroun résolu par Pechiney, que c'était un problème de Pechiney résolu au Cameroun. On ne peut pas mieux traduire la stratégie de l'impérialisme. Alors, il y a dans beaucoup d'entreprises extractives des procédés ultra-modernes, et les mineurs de phosphate au Maroc, par exemple, je peux vous dire que eux, là-bas aussi, ils font figure de privilégiés. Même à Boukra, dans le Sahara occidental, il y a un tapis roulant qui mène le phosphate de Boukra même jusqu'à El Aïoun où il est embarqué. C'est tout de même une réalisation industrielle qui n'est pas vilaine, celle-là. Alors, ne comparez pas le taux du travailleur paysan, du rural, celui-là, alors c'est effroyable. mais du travailleur industriel, et je compte le travailleur minier dans, en général dans ces cas-là. Je dis en général parce qu'il y a des cas différents. Je vais vous en citer un, le cas de la Miferma, le gisement de Zerouat dans le nord de la Mauritanie. Alors là, c'est du travail encore très peu élaboré, parce qu'il ne s'agit pas d'une mine, il s'agit d'une montagne, de minerai de fer. Alors on la débite en morceaux, à la pioche, à la pelle, etc. On la fourre dans des wagons, ils font tout un parcours considérable pour aller jusqu'à Nouadhibou, se faire embarquer là-bas. Là, il y a très peu de travail industriel, je le reconnais.
Le problème, enfin, si tu peux répondre au problème suivant, c'est que les salaires dans ces entreprises de première transformation des minerais, comme celles que tu viens de citer, est-ce qu'ils sont du type des pays impérialistes ou bien est-ce qu'ils sont très éloignés? C'est-à-dire, en définitive, quelle est la valeur de la force de travail au point où l'on est arrivé aujourd'hui? Parce que, bon, le capital constant est en fait très important maintenant dans ces mines qui sont modernes dans les pays du tiers-monde. Mais le capital variable, lui, où est-ce qu'il en est?
Ben, le capital constant n'est pas toujours très important. Je viens de le reconnaître dans le cas de la Miferma, où je crois qu'il n'a là qu'une importance relativement faible. Mais dans beaucoup d'autres cas, oui, le capital constant est important. Alors, le capital variable, c'est le prix de la main-d'œuvre, le prix de la force de travail, très exactement. La valeur de la force de travail, eh bien, je vous l'ai dit, lorsqu'elle est dans une entreprise industrielle, elle n'est pas aussi minable que Hargiri Emmanuel ni Samir Amin veuillent le dire. Ce n'est pas tout à fait exact. Et malgré tout, son rendement industriel, je me répète, je m'excuse, mais c'est vrai, son rendement industriel est nettement plus faible.
Tu voulais des précisions par rapport à ça? Des chiffres précis
Oui, si c'est possible, puisqu'en définitive, comme l'a dit Pierre Jallet, on cite un peu n'importe quoi actuellement sur cette question.
Quand je dis que la valeur de la force de travail industrielle n'est pas aussi faible qu'on dit, et que ceux qui la reçoivent font figure de privilégiés, ne croyez pas qu'ils soient des riches pour autant. Parce que dans les pays du tiers-monde en général, et au Maroc en particulier où j'ai vu ça, étant donné qu'il y a un sous-emploi effarant, chaque salaire industriel ne rétribue pas un homme, ni même la famille de cet homme, il sert à faire vivre une famille au sens le plus extensif qu'on lui donne dans les pays en question, c'est-à-dire qu'un salaire industriel, en moyenne, peut faire vivre jusqu'à 12, 15 et plus de personnes. Alors, on me dit, le salaire est un salaire de riche, mais celui qu'il reçoit n'est pas riche pour autant, parce que les modes de vie sont considérablement différents de ce qu'il est chez nous. Il fait vivre une famille au bled, il fait vivre des cousins, la famille a un sens beaucoup plus extensif qu'on ne l'a chez nous, et ce salaire est toujours un salaire partagé, étant donné l'énormité du sous-emploi et de la misère dans ces pays-là. Mais le salaire lui-même, en tant que valeur de mesure de la force de travail, il n'est pas ridicule quand c'est un salaire industriel. Il n'est pas les nôtres, c'est pas les nôtres, d'accord.